Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour, salut à tous les cyclistes du lundi, du mardi, du dimanche, des vacances et de tout temps. Vous êtes sur Cause Commune, c'est la voie des possibles. Vous nous écoutez sur 93.fm, c'est sur internet aussi, via la DAB+, le canal 9. Et on a aussi une appli compatible iOS ou Android, cause-commune. Téléchargez-la, il est 14h et bientôt 1 minute. Envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune.fm parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps à la fin de l'émission. On va commencer par les remerciements. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Évidemment, merci à Olivier Gréco pour la tribune qu'il nous donne. Merci à Abel Guggenheim pour les chroniques. Cette semaine, il va nous causer Code de la route ou l'un des 78 codes qui régissent notre organisation. Et oui, tout est permis, même le vélo sans permis. Et bien sûr, merci à Stéphane Dujardin qui n'a pas besoin de permis pour réaliser des émissions radio. Il en détient tous les codes. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Paris 2024, nous sommes en 2022, à 2 ans des JO, et cette échéance est bien au cœur de toutes les discussions, décisions qui sont prises en ce moment à Paris et en Ile-de-France. Il y a quelques jours, Anne Hidalgo présentait à la presse son projet de transformation du périphérique parisien. Des changements qu'elle considère pour commencer en douceur, avec une voie dédiée pour la circulation des acteurs des Jeux Olympiques, délégations sportives, officielles, presse, etc. Ils auraient une voie rien que pour eux, pour aller et venir rapidement d'un site olympique à un autre. Puis, une fois les JO terminé, nous une transformation pérenne de ce périphérique. La circulation et les aménagements sont au cœur de ce projet, cette crise même que seront les JO de Paris. Il se murmure que la circulation à vélo est l'un des enjeux majeurs pour cette édition. Une envie de créer un héritage pour que Paris et l'Île-de-France deviennent des territoires cyclables, dès la flamme éteinte. On peut être pour ou contre ces JO, rares sont les citoyens à s'en foutre royalement, ceux qui s'en foutent sont en général contre, ils n'ont pas forcément l'énergie et l'envie de militer contre. Cause Commune va nous proposer quelques émission sur ce sujet dans les jours à venir. Aujourd'hui, Rayon Libre, nous avions envie de faire un pas de côté, d'explorer avec Thierry Seret, qui possède une agence d'innovation et de prospective dans le sport, Code Zéro. Nous avions envie de nous poser la question du récit autour du vélo, du cyclisme, est-ce un sport? L'olympisme tire-t-il la pratique vers le haut? Contribue-t-il à le rendre populaire? Contribue-t-il, ces jeux, à donner envie de pédaler plus souvent, différemment? N'y a-t-il pas d'autres leviers identifiés? Sont-ils actionnés? Comment les raconter? Voilà de quoi nous avons tenté de parler avec Thierry Seret, fondateur de l'agence Code Zéro, au micro aujourd'hui de Rayon Libre. Bonjour Thierry.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Eh bien, merci beaucoup d'être au micro de Rayon Libre aujourd'hui, Thierry. Nos auditeurs et auditrices sont souvent gênés que l'on associe le vélo à une activité sportive, parce que le vélo est aussi et surtout pour nos auditeurs et auditrices un moyen de transport. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire en introduction pour que ces auditeurs se disent « bah tiens, je vais écouter Thierry Seret, sa vision m'intéresse, sa vision du vélo m'intéresse
ben, ». Je pense que je leur dirais en premier que le vélo, ça a d'abord été pour nous tous un jouet,
ouais.
Et puis sans doute une porte vers un des premiers degrés de liberté quand on est enfant.
Ouais.
C'est-à-dire que un jouet, oui, parce que c'est un vélo, ça s'offre. On voit, on a tous vu le lendemain du 25 décembre des gamins dans la rue avec des vélos tout brillants, quelle que soit la taille. Et oui, un vélo, pour moi, c'est d'abord un jouet, c'est quelque chose qui procure du plaisir. C'est devenu un outil pour la performance, et tant mieux, pourquoi pas, si ça peut apporter du plaisir à ceux qui le voient de cette façon-là. C'est en train de devenir un engin de mobilité, et tant mieux, parce que finalement, les Danois et autres Hollandais nous avaient anticipé un peu plus ça, et ceux qui ont la chance d'aller faire du vélo, par exemple, à Amsterdam, ont vu combien ça pouvait être agréable. Mais ce que je dirais, oui, pour répondre à la question, c'est ça doit être un jouet, ça doit être un instrument de plaisir.
Mais vous êtes incroyable, Thierry, parce que la première question après celle-là qui me venait, c'est en introduction, je parle de Jeux Olympiques. Selon vous, justement, ne faudrait-il pas sortir le vélo de cette notion de sport, de notion de transport, mais au contraire le ramener vers une notion de jeu comme les Jeux Olympiques? Et on pédale d'abord parce que c'est d'abord et avant tout ludique.
Oui, alors j'ai rien contre les Jeux Olympiques, mais effectivement, ouais. D'abord, c'est avant tout une compétition olympique, donc ça n'a plus grand chose à voir avec le jeu,
ouais.
Tel que vous et moi, on peut le
le concevoir, ouais.
Donc le concevoir. Donc les Jeux Olympiques, c'est avant tout de la performance. Autant mieux. Moi, je dois avouer qu'il ne suis pas un passionné de cyclisme au sens très classique du terme, que je regarde toujours avec intérêt les épreuves de piste.
Oui.
Parce qu'elles sont aux Jeux Olympiques très impressionnantes.
Oui.
Alors là, on est effectivement dans la notion de puissance, dans la notion de performance absolue, mais il y a quelque chose de très graphique dans ce spectacle-là,
oui.
Pardon, qui m'interpelle. Donc pourquoi pas. Mais d'abord, je pense que pour le vélo, ce qui reste pour nous, Européens, et même pas qu'Européens, parce que l'épreuve est très suivie aux États-Unis, la référence absolue, ça reste quand même le Tour de France. Et je pense que l'écho du Tour de France est plus grand que les Jeux Olympiques. Je ne crois pas que je ne cherche pas à diminuer l'importance du vélo aux Jeux Olympiques, mais c'est pour moi, c'est pas forcément, en tout cas dans mon esprit, dans mon imaginaire, la référence en termes de vélo, à part peut-être sur la piste.
Mais alors justement, quand on reparle de jeux, de ludique et de sport, etc., est-ce que finalement vous n'avez pas l'impression qu'on est soumis à une sorte de grand écart? D'un côté, le vélo devient un moyen de transport de plus en plus sérieux, je dirais, et de l'autre côté, le récit ou ce qu'on est en train de dire, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas l'amener sur une notion de plaisir et de jeu? Est-ce qu'il n'y a pas un grand écart là qu'il faut essayer de combler ou qu'il faut essayer de trouver sur lequel le récit a une vraie... Le récit sur le vélo a un vrai rôle à jouer.
Je pense que le grand écart, il est avant tout institutionnel.
Ouais.
C'est-à-dire que, malgré tout, l'image du vélo et l'image du Tour de France, et je suis pas le seul à le penser, je me rappelle d'un vieil édito du rédacteur en chef du magazine 200, qui est justement un de ces nouveaux magazines qui a un peu renouvelé le récit autour du vélo en l'accent notamment sur le voyage et aussi l'ultracyclisme, mais d'une certaine manière le voyage, c'est qu'en France, on n'avait pas de culture du vélo. On avait une culture du Tour de France. Et la culture du Tour de France, aussi fabuleuse soit-elle, et quel que soit l'avis qu'on peut avoir sur le Tour de France, qui est quand même une des épreuves qui est le plus regardée dans le monde, c'est quoi ce récit? On parle des forçats de la route. Donc c'est un récit sur la difficulté, c'est un récit sur l'effort, c'est un récit sur le dépassement, etc. C'est un récit très, je le dis souvent dans d'autres exemples sportifs, un récit très judéo-chrétien, c'est il faut être dur au mal, c'est un récit de la douleur, le Tour de France. Et encore une fois, c'est quelque chose de très beau, mais c'est un récit de la douleur. Or, aujourd'hui, et on l'a vu avec l'arrivée du VTT dans les années 80, le VTT qui est né dans le milieu des années 70 autour de San Francisco, qui était un récit orienté plaisir, comme d'ailleurs à la même époque, la grimpe et l'arrivée des windsurf, tout ça c'est à peu près la même époque. Et d'un seul coup, on a fait du vélo un récit autour du plaisir, parce que on descendait les pentes et on était là pour rigoler, pas pour faire la compétition. Alors je fais quand même un petit clin d'œil à des auteurs comme Olivier Aralambon, qui ont montré que sur un vélo classique de route, on pouvait avoir beaucoup de plaisir. Donc, encore une fois, on n'est pas dans le jugement. Je suis pas en train de dire que le cyclisme sur route est une abomination, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y trouvent du plaisir. Toujours est-il que l'image qui s'en dégageait, c'était un peu ça. Et je repense aussi à une vidéo d'une marque américaine qui s'appelait Diamondback, qui montrait toute la progression, c'était siblings, donc fratrie en anglais, qui montrait toute l'histoire du vélo dans une famille. Et la culture américaine autour du vélo, elle est un petit peu différente. Donc les Jeux Olympiques ne doivent pas nous faire penser que le vélo c'est de la compétition. Le vélo c'est avant tout du plaisir, et même si on s'en sert comme moyen de transport aujourd'hui, c'est un truc avec lequel on peut se balader, c'est un engin avec lequel on prend du plaisir avec ses enfants, justement quand on leur a appris à être indépendant, à être autonome sur le vélo. Qu'est-ce qu'on fait en premier en famille? C'est qu'on va faire une balade à 4, et pour moi c'est à 3 ou 4, 5 ou 6, en tout cas une balade en famille en vélo, et c'est le cœur du plaisir du vélo, c'est ça. C'est le vélo, c'est comme apprendre à courir ou au fond de son jardin, c'est un instrument de liberté, on augmente son rayon d'action, c'est juste fabuleux, c'est ça surtout le vélo.
Vous, ce que je disais aussi en introduction, Thierry, vous êtes donc l'un des fondateurs d'une agence qui s'appelle Code Zéro, vous faites de la prospective sportive, et au fait, je lis beaucoup vos travaux, et vous avez l'art de faire un pas de côté, et justement d'aller chercher ce qui se passe dans la voile, ou ce qui se passe dans le ski, ou ce qui se passe, tout à l'heure vous l'évoquiez, dans l'escalade, et c'est aussi tout ce mouvement, et tout ce mouvement et toute cette notion du corps, en fait, qui vient au milieu. Quand vous parlez de vélo et des nouveaux scénarios, quels sont vos points de départ? Comment vous travaillez?
Alors, c'est une très bonne question. Mais d'abord, on passe notre temps depuis des années à faire de la veille sur Internet. Oui. Et puis, moi, je suis issu de tous ces sports alternatifs qui sont arrivés années 80 et 90, et même avant, d'ailleurs. Enfin, moi, je n'étais pas là avant. Mais,
les sports alternatifs, pour vous, c'est quoi? C'est escalade, VTT?
C'est l'escalade, c'est le VTT, c'est la planche à voile, c'est le surf, c'est le skate. Toute cette culture sportive qui est arrivée en Europe et aux États-Unis, puis après en Europe à partir du milieu des années 70. Donc comme nous, chez Côte Zéro, on a un peu vécu ça de l'intérieur, c'est un peu notre matière. Ouais. Et c'est vrai que ça nous a amené, c'était un peu notre particularité, à faire tout un tas de parallèles. C'est-à-dire que la culture glisse, on va dire, c'est difficile d'imaginer un parallèle entre la planche à voile et le vélo, entre le surf et le vélo, et pourtant il existe, ouais, dans le sens où il y avait cette culture un petit peu de libération de ces sports-là, qui étaient des sports qu'on appelait des sports libres, parce qu'ils n'étaient pas liés à une fédération, ils n'avaient pas forcément la compétition comme finalité. Ils avaient le plaisir comme finalité, ça a été largement documenté par des universitaires et des sociologues, ce virage-là, ce virage culturel. Et donc, comment on travaille, on mélange un petit peu notre profonde connaissance de
la voile, par exemple,
ouais. Que ce soit Rodolphe Cadoret, mon associé, ou moi, ou les gens qui collaborent avec nous, on connaît très bien les sports, on a été immergé dans ces sports-là de manière professionnelle et passionnée, que ce soit dans la voile, dans le ski, dans le motocross, le vélo ou d'autres pratiques. Et on, instinctivement, je pense qu'on était câblés pour voir les parallèles un peu. Moi, j'ai souvent, par exemple, comparé le ski et le vélo. J'ai travaillé dans l'industrie du ski et ce qui se passait, par exemple, en termes de plaisir, quand on fait, par exemple, ce qu'on appelle de l'enduro en vélo, qui est une pratique tout-terrain un peu mixte, quand on est ce qu'on appelle dans un single track, c'est un chemin plutôt descendant, le plaisir qu'on ressent en vélo à ce moment-là, il est très proche de ce qu'on peut ressentir en ski avec cette recherche du rebond, de ce qu'on appelle aussi le flow, c'est-à-dire la fluidité. Et d'ailleurs, les stations de sport d'hiver, quand elles ont voulu exploiter, on va dire, leur pente pendant l'été, elles se sont ouvertes petit à petit au vélo, et au Canada, notamment en Colombie-Britannique, toutes les stations de sport d'hiver sont largement développées sur la pratique du VTT en hiver, enfin du VTT en été, pardon. Ouais. Donc ce qui est vraiment un parallèle entre le ski et le vélo. Puis il y a un autre parallèle que tout le monde pourra comprendre parce que ça se développe beaucoup en France, c'est les fameuses pump track.
Alors on parlera de pump track juste après la pause agenda et la pause musicale. On revient tout de suite après sur le pump track. Donc là pour l'instant c'est l'agenda et la pause musicale. L'agenda, faire, que voir, que lire cette semaine? Alors il y a un programme dingue cette semaine, que faire? Alors samedi 25 juin, c'est le classique challenge, filez jusqu'à Orléans au départ de Paris, revenez comme vous voulez, en train ou à vélo. Toutes les informations sont sur le site Classic Challenge. Que faire encore? Du 24 au 26 juin, il y a le concours de machines à Roubaix. Nous faisions un rayon libre. C'était le 30 mai avec Andreas. C'est une réunion d'artisans qui proposent des belles machines faites main. Que faire encore? Même date, 24-26 juin, le festival de gravel Nature is Bike. C'est à Angers et on pourra même s'y retrouver parce que j'y serai. Une dernière pour la route. Le 26 juin, à Mandagou dans le Gard, le Kids Rider Bike Challenge. Une conviviale sous le signe de la draisienne, organisée notamment par Lionel Beccari qui viendra nous causer de tout cela bientôt au micro de Rayon Libre, parce que la draisienne c'est le futur du vélo et puis c'est le passé aussi. À lire enfin Classique, un livre qui est paru chez Hugo Sport, écrit par Laurent Galinon. Une course de cyclisme, c'est un scénario, une image, une ambiance, du graphisme, c'est ce que vous disiez tout à l'heure au micro Thierry. Et enfin, notez encore dans votre agenda la soirée du 30 juin, soirée musique live autour du thème du vélo au Hangar, c'est à Ivry-sur-Seine, à deux tours de pédalier de la bibliothèque François Mitterrand. Il n'y aura pas de débat, il n'y aura rien, il y aura juste de la musique, du bon son, et puis c'est un bon moment pour se retrouver tous ensemble pour le lancement de la compilation numéro 3, L'échappée belle. Et là pour l'instant, puisqu'on parle de musique, c'est l'heure de la musique. On va s'écouter Curcura, Toto, La Momposina, Isus Tambores. J'essaye de prendre mon accent espagnol. Vous êtes sur Cause Commune, Rayon Libre. Nous sommes en compagnie de Thierry Seret, cofondateur de Code Zéro, une agence de prospective et d'innovation dans le monde du sport. On se retrouve dans 3 minutes. Malo et Stéphane, surtout Stéphane, nous envoie le morceau.
Bye.
voilà, vous êtes sur Cause Commune, c'est l'heure de Rayon Libre. Nous sommes en compagnie de Thierry Serret, cofondateur de Code Zéro. Il est 14h17. Avant la pause musicale, Thierry, on parlait, et vous aviez envie de parler de Pump Track, et je me rends compte pendant l'agenda, on parlait aussi de Dresienne, Pump Track, dire Dresienne, tout ça aussi, c'est des récits qui sont hyper intéressants sur le vélo.
Bien sûr. Alors la Dresienne, c'est marrant parce que c'est un objet du passé qui revient.
Ouais.
C'est génial parce que finalement, c'est de la créativité, et puis on rebrasse le passé, et tant mieux. Le Pump Track, c'est beaucoup plus récent, bien que les origines du Pump Track, là aussi, ça nous ramène Californie, fin des années 70, c'est issu du BMX. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'était une Pump Track, c'est effectivement une piste bosselée qui fait une boucle sur laquelle on peut venir s'amuser. Le but, justement, c'est, dans une Pump Track, ça peut paraître surprenant en vélo, c'est de ne quasiment pas utiliser les pédales.
Oui. C'est que jouer sur le poids du corps pour renvoyer le vélo et le relancer.
Exactement, ce qu'on appelle, on apprend ça en BMX aussi, c'est-à-dire enrouler, c'est-à-dire utiliser effectivement le poids du corps et l'énergie pour et l'énergie et les bosses et la déclivité qu'il y a sur une Pump Track pour avancer. Et c'est là où on se rend compte que plus que la puissance, qui est la puissance et l'endurance, qui sont deux valeurs clés en vélo, hein, ouais, avoir les deux, en tout cas en avoir une des deux, en Pump Track, c'est le rythme. Et c'est quelque chose qu'on voit arriver dans le sport, c'est-à-dire que la mesure, c'est plus la puissance, la performance, c'est le rythme. Et puis, une Pump Track, on en voit les maires dans la suite des skateparks ont compris assez vite que les Pump Track avaient du succès. En plus, l'infrastructure en elle-même ne coûte pas très cher. Mmh. Et elles se sont d'abord multipliées dans l'Est de la France en premier. Et aujourd'hui, on en voit un peu partout. Les gamins peuvent y aller assez jeunes, assez tôt, ouais, y compris en trottinette. Et puis ça peut emmener là vers le haut niveau. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de nier le haut niveau. Et je voudrais faire un clin d'œil à Eddy Clerté, que je ne connais pas, mais qui est le champion du monde de Pump Track. Et c'est un Français.
D'accord. Ben moi non plus, je ne le connais pas, mais si on va essayer de trouver son numéro et l'inviter au micro de Rayon Libre. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez juste avant, c'est que le Pump Track, c'est aussi une notion de rythme. Et tout d'un coup, on met un peu de côté la notion de puissance et la notion de force, etc., et de vitesse. Et c'est vrai que quand on parle, par exemple, encore une fois, de performance olympique, c'est plus rapide, plus haut, plus fort, etc. Est-ce que dans le vélo, pour raconter le vélo différemment, il ne faudrait pas aussi changer un peu les métriques ? Les métriques, c'est, ben voilà, c'est la vitesse, c'est la performance, c'est le nombre de kilomètres avalés, c'est le nombre de D+. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à aller chercher ? C'est ce que je vous posais d'ailleurs comme question quand on s'est parlé très vite vendredi. C'est pour vous, à quel moment vous avez l'impression d'avoir fait une belle sortie ou de vous être fait plaisir dans un single track ?
Ben comme beaucoup de gens comme moi qui font du VTT, c'est avoir comme une piste de ski finalement, c'est-à-dire avoir eu de la fluidité, ce que les Anglais appellent le flow,
oui,
c'est-à-dire se dire tiens, pendant tout mon single, j'ai bien enroulé, j'ai bien utilisé mon énergie, parce que comme c'est en descente, on pédale très peu, oui, à part pour certaines relances, sorties de virage, c'est avoir de la fluidité, avoir eu le rebond exactement comme on peut avoir en ski. Oui. Alors après, il peut y avoir aussi la belle le beau travers, là c'est plus une culture qui vient du motocross, le drifting en anglais, c'est-à-dire avoir su contrôler une glissade de l'arrière, de l'avant ou des deux roues, sans qu'on soit, parce que moi je ne suis pas un très grand performeur, mais un beau petit
vous
saut.
Êtes, vous êtes trop modeste Thierry.
Non, et, en tout cas, c'est cette notion de rythme, cette notion de gestuelle aussi. Alors après, il peut y avoir de la performance, on peut se chronométrer, regarder sur Strava quel temps on a mis sur tel segment, mais c'est pas, je crois pas que c'est le ressort. Encore une fois, c'est comme en planche à voile au début, comme en surf, le sentiment d'avoir fait une belle vague. En vélo, on parle de faire un beau segment,
ouais,
et ça c'est important. Ou alors, pour d'autres pratiquants, je pense à Mathias Dandois, là, qui ouais, est multiple champion du monde en flat, c'est le beau mouvement. On oublie la gestuelle. Enfin, une partie des gens oublient la gestuelle parce que justement, il y a cette culture un petit peu cette nouvelle culture du vélo. Cette nouvelle culture du vélo qui date quand même, qui est arrivée il y a une autre trentaine d'années et qui retrouve un nouveau souffle, c'est de se dire le vélo c'est aussi un jouet,
ouais,
à côté de la culture des Jeux Olympiques, à côté du cyclisme traditionnel, et on a la chance d'avoir de très beaux champions en France. Moi quand je vois des victoires d'Alaphilippe, je suis ça très loin.
Ou même Thibaut Pinot, je crois qu'il a gagné ce week-end le Tour de Suisse, ou en tout cas une étape, il est passé en premier.
Ouais, ouais. quand on voit les Français réaliser une belle perf, bah, tant mieux, même si moi le cyclisme, c'est pas ça qui me passionne. Mais j'ai lu les livres d'Olivier Arlambon, j'ai trouvé qu'il racontait ça de façon fabuleuse. Mais encore une fois,
on le recevait, Olivier, il était venu au micro de Rayon Libre il y a un an à peu près. Pour les auditeurs auditrices, je vous invite à l'écouter et surtout à le lire, il est extraordinaire, sa plume est extraordinaire. Oui.
C'est un plaisir. Donc pour ces gens-là, à ce niveau-là, on peut considérer qu'il y a du plaisir. Et puis pour tous les cyclistes qu'on voit sur les routes tous les week-ends en France, on imagine qu'il y a du plaisir. Mais malgré tout, en parallèle, se sont développées tout un tas de pratiques dont les fédérations, la française comme l'internationale du CI, ont mis du temps elles ont mis du temps à les voir et puis finalement à les accepter. Il a fallu que ce soit des gens comme Red Bull, par exemple, qui favorisent des épreuves comme la Red Bull Rampage, qui est pour tous les passionnés de VTT. Alors, on est dans la performance aussi, mais on est dans la gestuelle et le risque. On peut aimer ou ne pas aimer, mais c'était une façon vraiment différente de voir le vélo.
Dites-nous, parlez-nous de ce film.
C'est un film qui est sur Netflix qui s'appelle Accomplice, qui est l'histoire de la culture américaine du vélo. On y voit Cameron Zink, là, qui est un freerider très connu, et c'est pas le seul. C'est un très beau documentaire sur la culture américaine du vélo, et ça commence par leur enfance et la place du vélo dans leur enfance. Et la place du vélo emblématique américain, c'est le petit BMX. On en voit moins en France. Mais vraiment, ça montre à quel point le vélo peut être un jouet et rester un jouet même pour les
enfants. Le BMX, on le voyait dans E.T. par exemple, ou le Chopper. Et on le voit aussi, on l'a vu dans les premières saisons de Stranger Things aussi. C'est des vélos qu'on voit beaucoup dans ces séries-là. Quand même, en vous écoutant, ce sera ma dernière question. J'ai l'impression que... Alors, on est un peu tiraillé d'un côté. Le vélo, c'est sérieux, c'est du transport, c'est de la mobilité, c'est du sport, mais c'est aussi un jeu. Et de l'autre côté, de la performance qui se mesure et la performance qui ne se mesure pas, qui est très subjective, la notion de sensation et la notion aussi d'esthétisme. Donc on est sans cesse tiraillé sur nos vélos, en fait.
Oui, mais je pense que justement, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que finalement, on a la possibilité tous d'aimer les facettes du vélo qui nous arrangent. Moi, je sais que j'ai jamais vraiment aimé le vélo de route, et puis pendant 2 ans, j'ai eu la chance j'en ai acheté un parce qu'il fallait pas que je meure idiot. Et j'ai trouvé que, alors c'était pas ce que je préférais, donc finalement, j'ai refermé la parenthèse au bout de 2 ans, mais j'ai connu du plaisir sur mon vélo de route. Je me suis dit, il y a quelque chose, je comprends les gens qui sont passionnés de ça. Aujourd'hui, de se déplacer en vélo en ville, ça se développe et je trouve ça fabuleux. Donc le vélo, c'est tout ça, et justement les institutions qui ont la charge de gérer le vélo, il faut qu'elles pensent transversalement, et puis nous tous, on se dise, le vélo aujourd'hui, c'est quelque chose de très créatif. Il y a du vélo de route, il y a du vélo de piste, on en verra aux Jeux Olympiques, il y a du BMX, faut le développer, il y a les pump tracks pour les gamins, il y a des vélos électriques qui arrivent et qui permettent des choses nouvelles. Le vélo, ça reprend...
Le vélo, appropriez-le vous et puis faites-en ce que vous voulez comme vous l'aimez.
Exactement, c'est un univers fabuleux qui reprend une place terrible dans nos vies, et ça, c'est la meilleure nouvelle.
Et je vais être obligé de vous couper parce que ça va être l'heure de la chronique d'Abel Guggenheim. Lui, il n'a pas son pareil pour décoder la chronique, et dites, il va nous dire que tout est permis. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.fm, il est 14h26, on envoie Abel et on se retrouvera très vite après avec Thierry Seret, cofondateur de Code Zéro.
Bonjour. Le code de la route, c'est aussi pour les cyclistes. Cette phrase, vous l'avez certainement déjà entendue. Difficile de trouver affirmation plus stupide. D'abord parce qu'elle s'appuie sur l'hypothèse que les cyclistes seraient moins respectueux du code de la route que les autres, ce que je vous ai déjà expliqué et démontré être faux. Pour faire court, chaque catégorie d'usagers de l'espace public respecte l'essentiel des obligations du code de la route, mais s'affranchit de certaines, et les cyclistes pas plus que les autres. Tout le monde doit donc respecter le code de la route, et il n'y a aucune raison de distinguer telle ou telle catégorie dans le rappel du respect de ce code. Mais il n'y a pas non plus de raison de distinguer le code de la route parmi les obligations que doivent respecter les cyclistes et les autres. Nous sommes, dans notre vie quotidienne, tenus de respecter un certain nombre d'obligations, légales ou réglementaires. Ces dispositions sont généralement regroupées dans des codes il y en a actuellement 78, et les cyclistes, comme les autres, doivent, en traversant une forêt, respecter le code forestier, en allant voter le code électoral, dans d'autres circonstances, le code du travail ou le code du tourisme, et toujours le code civil ou le code pénal. La phrase par laquelle je débutais cette chronique, « Le code de la route, c'est aussi pour les cyclistes », a donc autant de pertinence que « Le code du sport, c'est aussi pour les handballeurs » ou « Le code du commerce, c'est aussi pour les charcutiers ». Il vous est peut-être arrivé d'entendre à la suite une autre phrase qui illustre le même préjugé. Il faudrait faire passer le permis de conduire aux cyclistes pour leur faire apprendre le code de la route. Elle est tout aussi stupide. Rappelons d'abord que l'examen du permis de conduire ne concerne pas seulement le code de la route, mais comporte aussi une épreuve pratique. C'est le cas aussi des autres permis analogues, permis de chasse, de pêche, de port d'armes. Il existe en effet de nombreux autres autorisations qui se nomment permis, habilitation, accréditation et qui peuvent être délivrées par l'État, par des organismes professionnels, des entreprises. Vous ne pouvez ainsi vous mettre sans contrôle aux commandes d'une locomotive, d'un avion et pas non plus d'un haut fourneau ou d'une centrale nucléaire. Ces autorisations concernent des activités réclamant une certaine compétence acquise au cours d'une formation plus ou moins longue. Elles existent surtout lorsque la méconnaissance des règles et des usages peut avoir des conséquences importantes. Bien que ces activités comportent une part de risque et l'emploi d'outils pouvant être source d'accidents, cuisiner ou bricoler chez vous ne requiert aucune autorisation. Mais on est bien sûr plus exigeant avec les personnes qui exercent professionnellement dans la cuisine pour une collectivité ou dans une entreprise de menuiserie ou de plomberie. C'est pour cette même raison qu'on exige un permis de conduire pour utiliser une automobile, objets dangereux par nature, et des permis spécialisés plus difficiles pour la conduite de poids lourds ou de véhicules de transport en commun, et qu'il n'y a aucune raison de soumettre à cette obligation les personnes utilisant un vélo. À lundi prochain.
Et voilà, c'était donc Abel Guggenheim. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.fm, un rayon libre qu'on vient de faire sous le signe du vélo qui se sert chez Récit. Vous êtes encore là, Thierry ?
Tout à fait.
Il me semble que vous lancez un podcast, Thierry.
Oui, complètement. On a, après avoir longtemps réfléchi et mis un petit peu de temps pour le mettre en place.
Comment il s'appelle ?
La semaine dernière. C'est un podcast qui s'appelle Explore.
Et ben voilà. Il faut que je conclue. Et donc, auditeurs, auditrices, si vous avez envie d'écouter Explore, vous le trouverez sur les plateformes. Merci beaucoup, Thierry.
Merci
de l'invitation. Et puis, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. On se retrouvera la semaine prochaine. L'invité sera Pauline Drillet qui co-organise.